Dans le domaine des relations, nous avons commencé à parler dimanche passé. Il est une chose dont je pense nous avons tous pris conscience, l'expérience de vie aidant, c'est que certaines personnes vont vous faire sortir de la conduite du Saint-Esprit. Rien qu'en le disant, je suppose qu'il y a des noms, des visages qui surgissent dans votre tête. Vous connaissez très bien ces personnes. Elles vous jugent et vous vous sentez instantanément découragé. Elles ne vous aiment pas et vous vous sentez rejeté. Ou encore, ces personnes sont un trou noir de besoins et elles vous vident. Elles placent des obstacles sur votre chemin et vous découragent en permanence. Elles vous font même parfois peur. Elles vous dépriment. Et j'allais oublier, forcément, cerise sur le gâteau, vous ne les aimez pas. Est-ce que ça vous dit vaguement quelque chose ? Le célèbre auteur de pièces de théâtre, Georges Bernard Shaw, était un jour, lors d'un dîner, assis à côté d'un homme prétentieux et profondément ennuyeux. Après avoir patiemment écouté un insupportable monologue constitué d'une suite interminable d'informations sans aucun intérêt, Shaw fit l'observation suivante à l'homme en question. « À nous deux, mon cher monsieur, nous savons tout ce qu'il y a à savoir. »« Comment ça ?» répondit l'autre. « Eh bien, reprit Shaw, vous semblez tout savoir à part que vous êtes un crétin ennuyeux. Et moi, ça ?» Je le sais. Le même Bernard Shaw et Winston Churchill ne s'entendaient pas très bien. Un jour, Shaw envoie à Churchill deux billets pour la première de sa nouvelle pièce. Les deux billets étaient accompagnés d'un mot « Amenez un ami si vous en avez un ». Churchill renvoyait les deux billets parce qu'il n'était pas libre ce soir-là. Il précisait également dans un mot d'accompagnement « Je viendrai le second soir s'il y en a un ». Nous avons tous des personnes difficiles dans nos vies. Mais la bonne nouvelle, il faut peut-être se dire un petit peu dans la longueur que c'en est une bonne, mais c'est que Dieu peut utiliser ces personnes pour que vous deveniez la nouvelle version de vous-même. Et elles vous aideront peut-être même davantage à devenir ça que toutes les personnes autour de vous qui vous aiment et qui vous aident à vivre. C'est-à-dire, pour ça, je pense qu'il faut se rappeler de ces paroles de Jésus qu'on connaît bien, hein, puisqu'elles font partie du sermon sur la montagne. Enfin, une montagne, c'est une colline, mais enfin, soit, on va pergoter. Voilà ce que dit Jésus, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors je vais essayer de reformuler ça, même si je pense que c'est relativement clair. On vous a dit d'aimer vos ennemis et de détester, d'aimer vos amis et de détester vos amis. Eh bien, dit Jésus, moi je m'oppose à ça. Je vous lance un défi. Aimez vos ennemis, laissez-les vous aider à sortir le meilleur de vous. Si tout ce que vous êtes capable de faire, c'est d'aimer ceux qui vous aiment et qui vous le montrent, vous espérez qu'on va franchement vous féliciter pour ça. Tout le monde est capable de faire ça. En réfléchissant à ça, j'ai repensé à ces lettres que Himmler écrivait à sa fille. Ouais, Himmler, chef de la SS, okay, chef des nazis. Ben, quand on voit l'amour qu'il avait pour sa fille dans ses lettres et réciproquement, voilà, enfin, je ne sais pas comment il faut le qualifier, ce mec-là, c'est un cinglé total. Enfin, ce mec a fait, ça, entre guillemets, un monstre comme peu que les blessures du monde en a un peu connu. Pourtant, il était capable d'aimer sa fille et sa fille l'aimait. Ben, Jésus dit, si c'est tout ce que vous êtes capable de faire, si vous dites bonjour qu'à ceux qui vous saluent, est-ce que vous pensez vraiment que je vais vous donner une médaille pour ça? En d'autres termes, ce que je dis, c'est grandissez. Vous êtes des sujets du royaume à présent. Alors vivez en conséquence, vivez selon l'identité que Dieu a créée en vous. Et arrêtez de vous chercher des excuses aussi. Donc si instinctivement nous avons du mal avec ce que notre Seigneur nous dit, et je pense que nous avons du mal, c'est parce que nous ne saisissons pas le principe de vie que sous-tendent ces paroles de Jésus. Et le principe en question, il est très simple. Les autres ne créent pas votre esprit. Les autres révèlent votre esprit. Ce n'est pas de leur faute si vous êtes comme vous êtes à certains moments. Ils, révèle ce que vous êtes. Donc ce n'est pas leur faute si vous manquez de patience. Ils vous révèlent que vous manquez de patience. Ce n'est pas eux qui vous transmettent votre colère. Ils vous révèlent que vous êtes capable de vous mettre en colère. En fait, il est fort possible que si Dieu veut faire croître une qualité en vous, il le fasse en permettant à certaines personnes un peu difficiles, ou même carrément difficiles, de croiser votre chemin. Si vous devez développer, on en est tous là, je pense, si vous devez développer votre capacité à aimer, il est probable que rencontrer des personnes compliquées à aimer soit une très bonne manière d'y arriver. Si vous devez faire des progrès en termes d'espérance et d'espoir, vous êtes plutôt pessimiste de nature, placer autour de vous des gens décourageants vous obligera tôt ou tard à changer de perspective. Je crois que nous avons tous fait du sport, pour la plupart d'entre nous dans cette pièce, un jour, enfin peut-être, sans doute. Moi oui, mais il y a longtemps. Et je pense qu'on a tous fait du sport en sachant que c'était bon pour nous, pour nos muscles, pour notre santé. Ceux qui font encore un peu de cardio aujourd'hui, qui vont à la salle ou ailleurs, ben, ils savent que c'est bon pour leur cœur. On est tous convaincus de ça, en fait. On ne discute même plus de ça, c'est tellement évident pour tout le monde. Alors, se pourrait-il que les personnes difficiles qui gravitent dans vos vies sont justement là pour renforcer votre capacité à aimer? C'est une question qu'on s'est souvent posée, me semble-t-il, quand on est confronté à des gens difficiles. Pourquoi Dieu permet-il la présence de telles personnes dans ma vie? Et la réponse est en fait très simple. Si nous croyons ce que la Bible dit sur l'homme, la réponse est très simple. Il n'existe pas d'autre personne que celle-là. Toutes les personnes sont difficiles, à un niveau ou à un autre. Alors, vous n'aurez peut-être pas la même personne difficile que quelqu'un d'autre, mais vous en avez au moins une dans votre vie. Si Dieu devait se débarrasser de toutes les personnes difficiles se prenant sur terre, vous vous retrouverez horriblement seul, et moi je ne serai plus là non plus. Parce que moi aussi, je fais partie des personnes difficiles. Un des trucs qui est quelque chose le plus difficile que j'ai eu à vivre à ce niveau-là, c'est de me rendre compte que j'étais moi-même la personne difficile de quelqu'un d'autre. Bon, je sais bien que pour la plupart d'entre vous, je suis votre personne difficile de référence. Mais ça, c'est un peu lié à ce que je suis supposé faire. Quand on prend les textes bibliques, on va être un peu biblique, ben c'est idem. Moïse avait le pharaon, les mauvaises langues diront qu'il avait aussi sa femme, ce que je ne me permettrai pas de dire. Il avait Israël aussi qui lui pompait l'air. Combien de fois il dit, écoute, moi, moi je ne suis pas le père de ce peuple. Moi il me pompe, enfin, il ne dit pas ça comme ça, parce qu'en hébreu ancien c'est plus littéraire que ça, mais l'idée c'est ça. Élie, le prophète Élie, il a eu Jézabel, Esther a eu Aman, Jacob a eu Laban. Jean le Baptiste a eu Hérode et même Jésus a eu Judas. Ce qui signifie que si Dieu vous aime et qu'il veut vous changer, il permettra à des personnes difficiles de faire partie de votre vie. Mais encore une fois, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous êtes la personne difficile de quelqu'un d'autre. Donc si nous sommes capables, c'est un peu ce que Jésus veut faire passer comme message ici, si nous sommes capables d'apprendre à ce que des fleuves d'eau vive continuent de sortir de nous, donc on reste sous la direction de l'Esprit, malgré le fait que nous sommes en contact avec ce genre de personnes, en termes relationnels, de véritables relations, de grandes choses vont finir par arriver, forcément. C'est à ça que fait, me semble-t-il, un référent Jésus quand il parle d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est une phrase qui nous surprend, et comment je pourrais être parfait? Simplement parce que Dieu, lui, il n'est, indépendamment de sa dimension Trinité, il n'est en rapport qu'avec des personnes difficiles. Ces personnes, c'est nous. Tous les jours, on lui pompe l'air, façon de parler, bien entendu. Tous les jours, on est en dessous de tout, à un moment ou à un autre. Tous les jours, on fait un truc, on agit d'une certaine manière, on pense quelque chose, on dit quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il voudrait nous voir penser, dire ou faire. Et pourtant, il nous aime quand même. Le premier stade, néanmoins, quand on réfléchit à ce genre de dynamique, c'est qu'il faut commencer par reconnaître l'impact qu'ont ces personnes dans nos vies. Il ne faut pas nier l'impact négatif, par exemple. C'est important parce que si on ne prend pas conscience de ça, on va se laisser submerger. Donc le premier niveau de cette prise de conscience consiste à comprendre et à admettre que nous sommes tous bien plus affectés par l'impact qu'ont les gens dans nos vies que ce que nous pouvons bien nous en rendre compte habituellement. Nous sommes toujours, je dis bien toujours, rempli ou vidé par chaque interaction avec l'une ou l'autre personne. Il y a un psychologue qui a, quelques années, écrit un bouquin très intéressant là-dessus pour différencier les introvertis et extravertis. Il a dit les extravertis, ce sont des gens qui, dans leurs contacts sociaux, le fait d'avoir des contacts sociaux, de rencontrer d'autres personnes, ça les remplit, ça les booste. Un introverti, au niveau psychologique pur, hein, un introverti, c'est quelqu'un dont les rapports sociaux vident. Voilà. Les pasteurs relationnels sont des introvertis, même s'ils parlent tout le temps. C'est que c'est très rare d'avoir des interactions pour un pasteur avec des personnes qui ne le vident pas, forcément. Alors, ce n'est pas le problème de vider, hein. Il faut simplement être conscient que le seau se vide et il faut le remplir, bien entendu. Le docteur Jill Taylor est une scientifique diplômée d'Harvard, on va toujours bien sur un CV, et spécialisée dans les recherches sur le cerveau. À 37 ans, cette femme brillante, il y en a aujourd'hui une soixantaine, cette femme brillante a connu une terrible épreuve, une attaque. Le côté gauche de son cerveau, celui qui régule la parole et la pensée linéaire, a été totalement dévasté. En clair, pendant plusieurs mois, elle est restée dans un lit d'hôpital, incapable de tenir ou même de supporter une conversation. Elle ne savait plus parler. Elle a écrit que malgré le fait qu'elle ne comprenait pas un mot de ce que les gens lui disaient, parce que le cerveau était endommagé, elle devint profondément consciente de ce que ceux qui l'approchaient augmentaient son envie de vivre ou la diminuaient. Rien que par leur présence. Hein. Voici ce qu'elle écrit. « J'ai fait l'expérience des gens comme autant de paquets d'énergie. » Bien que je ne puisse pas comprendre ce qu'ils me disaient, je pouvais lire les niveaux de volume d'énergie à partir des expressions de leur visage et de leur langage corporel. J'ai prêté une grande attention à la manière dont leur dynamique énergétique m'affectait. Certains m'apportaient de l'énergie et d'autres me vidaient de mon énergie. Donc, ça signifie qu'il y a un niveau plus profond que les mots, plus profond que le simple échange d'informations. Chaque interaction avec une autre personne est un échange de type spirituel. Certains sont des porteurs de vie et ils amènent la vie avec eux, ils augmentent notre énergie et creusent en nous de l'espérance. Et ceux-là, comme je l'ai souvent dit à d'autres moments, dans d'autres cadres, et ceux-là, ils vont chercher en nous le meilleur de ce qui est en nous. Même si parfois il faut chercher quand même un petit peu. D'autres sont des pompeurs de vie. Ils ajoutent à notre anxiété et nous invite au cynisme, et nous nous surprenons à être sur la défensive, à être déprimés ou à être exaspérés. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je fais pour grandir au travers de relations difficiles? Je me rappelle qu'il y a quelques années, ma sœur a décidé de prendre une semaine de vacances en Espagne, elle avait un chien à l'époque, elle a donc cherché un chenil où déposer son chien. Comme ma sœur aime beaucoup les animaux, elle a vraiment pris le truc, un bazar en Flandre, mais c'était le 5 étoiles pour chien, ils avaient la télé couleur, enfin, soit toutes les chaînes. Et quand on allait chercher le chien, ils avaient même appris, pendant cette semaine-là, ils avaient même appris à Dingo, c'était son nom, hein. Il ressemblait à un coyote, donc on l'a appelé Dingo, il était un peu foufou, ils ont même appris à obéir. Et quand j'étais recherché le chien avec ma sœur, je me suis directement dit, étant issu de la famille qui est la mienne, c'est quand même dommage qu'on ne peut pas mettre les gens une semaine dans ce genre d'endroit pour qu'ils arrêtent de pomper l'air à tout le monde quand ils en sortent. Il n'y a pas ça pour les êtres humains. Enfin, si, ça s'appelle des camps de rééducation. Ce qui nous tue, c'est que nous ne pouvons pas changer les autres. Nous ne pouvons pas les arranger, les réparer. Il y a une très bonne raison à ça. C'est que chacun d'entre nous a une âme. Tout le monde en a une, plutôt. Un endroit où seule cette personne et Dieu peuvent se retrouver. En fait, seul Dieu peut toucher le lieu le plus profond de l'âme de quelqu'un. J'ai mis des années à comprendre ça, mais maintenant j'en suis convaincu. Alors, nous pouvons toujours nous dire que nous pouvons intimider, flatter, manipuler, raisonner, cajoler, récompenser ou nous retirer pour obtenir ce que nous attendons de l'autre. Et peut-être est-ce que c'est vrai, ça va avoir un impact à la superficie des choses, peut-être, hein, au niveau de la surface. Je peux peut-être agir sur les contours extérieurs de la personnalité de l'autre, mais je ne peux pas atteindre et toucher la partie la plus profonde d'une autre personne, parce que seul Dieu peut le faire. Maintenant, je peux être une aide à ce qu'il puisse faire ça ou pas. Je peux être avec lui ou contre lui, même si je ne m'en rends pas toujours compte. J'ai déjà fait référence quand on a parlé de la prière, mais je rappelle ça. C'est que quand vous êtes en contact avec des personnes comme ça, ou vous attendez un changement terrible dans leur vie parce que vous n'en pouvez plus, peu importe, Le seul endroit où vous pouvez vraiment avoir un impact extraordinaire sur la vie de la personne, c'est dans votre prière pour cette personne devant Dieu. Parce que vous replacez Dieu à sa place. Dieu est toujours, le Christ est toujours entre vous et la personne. C'est une sorte de zone tampon, démilitarisée, si vous voulez. Donc, ce qui signifie que la prière est ce qui peut nous rendre le plus proche en termes d'influence bénéfique profonde sur une autre personne. C'est le seul moyen d'aller avec Dieu au cœur de l'âme de quelqu'un d'autre. Parce que toujours entre moi et la partie la plus intime de l'autre se trouve le Christ. Donc, à certains moments, la voie la plus directe qui va vous mener à l'autre, ce n'est pas simplement de lui parler. Le moyen le plus direct vers lui, c'est de parler de lui ou d'elle à Jésus. Parfois, malgré tout, il faudra dire des choses. Hein. Ça, je suis obligé de vous le dire, parfois il faudra dire des choses. Alors il y a certains qui sont un peu payés pour dire des choses. C'est peut-être pour ça qu'ils sont mal payés la plupart du temps, parce que forcément, ils embêtent tout le monde. S'il faut bien comprendre chaque fois que vous êtes convaincu qu'il faut avoir ce genre de discussion, je ne suis pas en train de dire, parce que la prière est efficace à certains niveaux, qu'il faut, à un autre niveau, négliger tout contact relationnel véritable et toute conversation impliquante. Mais il faut toujours tenir à l'esprit que même si vous allez dire ça à la personne, vous allez lui dire ce que vous pensez devoir lui dire, il ne faut jamais perdre de vue que vous n'êtes pas responsable et jamais certain du résultat. Il n'y a rien qui nous mine plus, moi je parle pour moi, que de me dire il faut que je dise ça, ça et ça, mais j'espère quand même toujours un résultat, et parfois il n'y a pas de résultat. En tout cas pas visible, en tout cas pas à ce moment-là. Et là, on peut déprimer. Donc bien, encore une fois, se dire que le résultat ne dépend pas de nous, il dépend toujours de Dieu. Je dois juste, dans ce cas-là, le faire, parce que c'est ce que j'ai à faire. Le reste appartient à Dieu. Parfois, je me demande ce qu'il fait quand même. Moi, je te laisse, pour le résultat, je te laisse faire. Dix ans après, je te rappelle quand même que pour le résultat, là, je te laisse faire. Il m'est arrivé à plus d'une reprise, alors que la rencontre n'avait pas produit le résultat que j'espérais, quasi 99% du temps, de me sentir bien quand même, simplement parce que j'avais fait face à une rencontre difficile en faisant confiance à Dieu et en arrêtant d'essayer de jouer à Dieu. En fait, lorsque nous gardons Dieu entre lui et l'autre, nous et l'autre, on commence à avoir moins peur de l'autre. L'autre nous fait moins peur. Mieux encore, quand je garde Dieu entre moi et ceux que je suis supposé aimer, j'éprouve de moins en moins le besoin de tout contrôler, parce qu'on a tous à un certain niveau ou l'autre, on a besoin de contrôler les choses, parce que quand on a l'illusion de contrôler, on a moins peur. Une autre question que je me suis posée, parce qu'on parle beaucoup d'amour dans la Bible, la preuve, mais cette question elle est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est difficile pour moi? Moi, je suis toujours très étonné quand j'ai une personne en commun dans mes relations, que parfois, c'est rare, mais ça peut arriver, que parfois, l'autre personne qui a cette personne en commun me dit « Oh, il est quand même génial hein. !» Et moi, je me dis « Oh, mais comment c'est possible ? Moi, je trouve que c'est un pauvre type. » Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, l'autre peut être génial ou insupportable parce que je suis moi, et c'est moi qui regarde cette personne. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne est difficile pour moi ? Alors, parmi de nombreuses raisons, il y a celle-ci, un classique. L'attraction physique. Vous êtes beau, vous avez plus de chances de plaire déjà au premier regard. Le quotient intellectuel. Soit je suis au ras de la moquette, soit je suis dans les cintres. Voilà, ça peut, pour un intellectuel, pour quelqu'un qui a un peu de culture, c'est clair qu'une conversation avec quelqu'un de nouveau dans son environnement qui a une certaine culture, une certaine intelligence, de qui on peut parler de différentes choses, ce sera plus facile. Donc, je vais beaucoup plus vite être en empathie avec ce genre de personne. Le type de personnalité, forcément. Forcément, la personnalité de l'autre, par rapport à ce que moi je suis, ce que vous êtes, va avoir un impact. Moi, je n'affectionne pas le même type de personnalité que vous affectionnez, par exemple. Mais la raison numéro un à l'analyse, qui détermine que vous aimez une personne ou pas, est de savoir si cette personne vous aime. Si elle vous aime, qu'elle vous le prouve, hein, qu'elle vous le montre, vous l'aimerez. Et si elle ne vous aime pas, ben vous ne l'aimerez pas non plus. Je sais bien que c'est une évidence que je suis en train de dire. Hein, mais... Donc une personne peut avoir de merveilleuses qualités, mais le fait qu'elle ne vous aime pas va façonner notre perception de cette personne. Gandhi, par exemple. Ben, Gandhi ne m'aime pas. Gandhi ne m'a jamais aimé. Donc pour moi, j'ai toujours pensé qu'il était un petit prétentieux, superficiel et chauve. Il y a des gens qui pensaient ça de Gandhi, vraiment. Sans doute, en tout cas. Ce qu'il faut comprendre, qui est la bonne nouvelle pour nous qui avons le Saint-Esprit et qui sommes les enfants de notre Père, c'est que Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il ne trie pas les gens suivant leur personnalité, voilà. Dieu aime les gens qu'il aime et il aime aussi les gens qui ne l'aiment pas. Et il ne le fait surtout pas parce qu'il doit le faire. Il n'aime pas les gens qu'il n'aime pas. Pas parce qu'il se sent obligé moralement de le faire, mais parce qu'il est comme ça. Il ne se dit pas « je suis Dieu, donc je suppose que je suis coincé » et que je dois aimer les gens, même ceux qui ne sont pas aimables. Dieu aime parce que l'amour est le seul chemin qui mène à la vie et que Dieu est amour. Il n'y en a pas d'autre. On va prendre un texte dans le Nouveau Testament, deux petits versets, dans la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Elle est boule, hein. « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Ce que Paul nous dit, parce qu'il n'est pas un naïf Paul, hein, c'est que les relations difficiles peuvent créer une tête de pont en nous pour le mal. On peut, par notre attitude, parce qu'on est entouré de gens qui pour nous sont difficiles, on peut avoir à un moment une ouverture en nous qui fait que nous allons commencer à ne plus nous soumettre au Saint-Esprit et à tomber dans l'amertume, la colère, etc., etc., etc. Je crois qu'on comprend tout ça, je pense. La bonne nouvelle, vous remarquez qu'il y en a toujours une bonne, hein, quand il y en a une pas trop bonne juste avant. C'est que Dieu nous a fait de telle manière qu'il ne nous faut qu'un quart de seconde pour nous tourner vers l'Esprit de Dieu et demander son aide lorsque nous sommes en difficulté relationnelle. Avant de ressentir tous ces sentiments négatifs, il y aura une zone, un espace où Dieu va et va vouloir nous parler et où nous aurons surtout l'occasion de nous adresser à lui intérieurement. Ce qui est très intéressant, c'est de comparer ce que la Bible dit au niveau de cette zone et ce que la science neurologique nous en dit. L'endroit du cerveau où sont traités les sentiments négatifs, amertume, colère, etc., s'appelle l'amygdale. Quand lors d'expériences de laboratoire, par exemple, on retire cet élément du cerveau à des petites souris, on remarque que celles-ci deviennent incapables d'exprimer de la rage ou de la peur. Elles n'ont plus peur et elles ne se battent plus. Il faut savoir aussi que la plupart du temps, lorsqu'une information entre dans votre cerveau, il y a des informations qui entrent dans votre cerveau, hein. Elle se dirige vers le néocortex pour y être traitée. Pourtant, dans 5... Bon, ça, c'est le côté rationnel, ce qui vous permet de réfléchir, de mettre de l'intelligence, même quand la donnée est émotionnelle. Donc, il y a moyen de sentir la colère monter en pour être tout à fait clair, pratique. Quand vous sentez un sentiment de colère arriver, même au niveau de votre cerveau, le néocortex est là pour traiter l'information, donc pour absorber le côté colère et dire « Attends, pourquoi tu te mets en colère? Est-ce que c'est raisonnable de te mettre en colère ?» etc. Pourtant, toujours expérience aidant, dans 5% des cas, lorsque quelque chose d'extrêmement fort sur le plan émotionnel vous arrive, l'information va directement vers l'amygdale sans passer par le néocortex. Autrement dit, l'information va court-circuiter votre côté rationnel. Ça va taper directement dans l'amygdale. ce qui signifie en termes clairs que la partie pensante du cerveau est court-circuitée. Vous pensez plus, vous flinguez, quoi. Alors laissez-moi vous donner un exemple pratique. Et je vais être gentil, ça ne sera pas un exemple issu de ma vie à moi. Je n'ai pas envie que vous fassiez le cauchemar pendant la semaine. Une maman fait ses courses au supermarché du coin. Elle a dans sa charrette, dans son chariot, son caddie, je ne sais plus comment ça s'appelle, elle a sa petite fille de 18 mois et à sa main, enfin à son, en tout cas près d'elle, elle a son petit garçon de 3 ans. Okay ? Je pense que ceux qui ont des enfants peuvent s'imaginer la situation. Le petit garçon pompe sa mère depuis pas mal de temps, quelques minutes, pour qu'elle lui achète du chocolat. Et ça fait 5-6 fois que la maman dit à son petit garçon « Non, je ne t'achète pas de chocolat. » Mais à chaque non, il y a la moutarde qui monte. Hein. Dans l'intervalle qu'elle est en train de se, entre guillemets, disputer, de négocier avec son fils, il y a sa petite cocotte de 18 mois qui prend un pot de confiture dans le rayon. Le pot de confiture, il fait 3 fois la taille de sa mémine. Qu'est-ce qui se passe ? Schlaf ! Pot de confiture éclaté par terre. Ça fait du bouquin. Donc ça saisit la mère, qui remonte encore un peu au niveau de tension émotionnelle, et surtout, tout le magasin se retourne vers la mère. Et quand on voit la... Qu'est-ce que les autres pensent ? Encore une femme qui aurait mieux fait de ne pas faire des gosses. Elle ne sait pas tenir ses enfants. C'est là que ce phénomène apparaît. La maman va vivre à ce moment-là ce que les chercheurs appellent un détournement d'amygdale. J'aime bien l'expression. C'est-à-dire que l'amygdale s'empare du processus de réflexion et la maman se transforme en tueur à gages. C'était une maman, et en l'espace de 3 minutes, elle est devenue un tueur à gages. Mais vraiment. Hein. Elle attrape son petit garçon de 3 ans, le fourre sous son bras, en le retournant comme une crêpe, alors qu'au même moment, elle secoue le caddie, comme s'il y avait un tremblement de terre de niveau 9 sur l'échelle de Richter, pour que la petite arrête parce qu'elle est fâchée contre sa fille. Le gamin hurle à ce moment-là. Repose-moi par terre, par exemple. La maman est alors hors de contrôle car elle souffre de ce que les mêmes chercheurs appellent une incapacité cognitive, temporaire, c'est-à-dire qu'elle ne pense plus. Elle ne pense plus, elle flingue. Arrivée à ce stade-là, la pensée relationnelle n'est plus une option envisageable. On ne pense plus. Alors je voudrais encore préciser que tout ceci n'est pas tiré du dernier film d'horreur en date, mais bien du quotidien de milliers de mamans occidentales. Il y a malgré tout un aspect de ce court-circuit qui devrait nous encourager. On a mesuré les impulsions produites dans le cerveau. Par exemple, si je décide de bouger ma main, cette impulsion produite par mon cerveau va mettre un certain temps avant d'atteindre effectivement ma main et produire le mouvement escompté. On a l'impression que ça va tout seul, mais il y a une fraction de seconde qui nécessite que la donnée du cerveau passe à ma main. Tant que les neurologues peuvent examiner cette impulsion, par exemple sur un encéphalogramme, c'est la vie du cerveau qui est toujours bien présente. Mais c'est pratiquement, ça devient intéressant. Il se passe en fait un quart de seconde. Alors, je me dis, un quart de seconde, on dit que c'est pas beaucoup, je sais. Mais il se passe un quart de seconde entre le moment où votre cerveau produit l'impulsion et le moment où votre corps va le traduire par un mouvement. Un quart de seconde, ça peut sembler très peu, mais en réalité, c'est énorme. Si, si. On va prendre un autre texte, toujours dans Éphésiens. Donc, si vous mettez en colère, donc ça arrive, hein, vous avez remarqué ça. Paul dit ne péchez pas, c'est-à-dire ne donnez pas une assise au mal dans votre vie. Vous pouvez pas rester là-dedans. Donc, ce petit quart de seconde est le temps durant lequel le Saint-Esprit peut encore prendre le contrôle. Alors, une fois, un quart de seconde, on dit mais c'est rien. Oui, mais c'est mieux que rien. Parce que c'est un moment, et forcément, spirituellement, d'une intensité inouïe, ce fameux quart de seconde. L'exemple de la maman que j'ai pris, je pense que on a peut-être quasiment tous ici assisté déjà à ce genre de scène. On l'a peut-être vécu soi-même. Mais ce qui est frappant par rapport à notre texte de Jésus, le sermon sur la montagne au départ, quand il dit « Aimez vos ennemis », qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire quand vous aimez ceux qui vous aiment ? Ce qui est frappant dans cet exemple, c'est ce désir de blesser ou de faire du mal à quelqu'un qu'on aime. Alors nous sommes appelés à aimer des gens qui ne nous aiment pas. Mais même nos enfants, on est capable de les tuer hein, quand on est en colère. Non ? Alors imaginez ce qu'on est capable de faire justement à quelqu'un qu'on n'a pas appris à aimer ou qu'on n'a pas décidé d'aimer. Donc ce désir peut être parfois si puissant, si fort à un moment précis, qu'il peut nous mener à le traiter avec indulgence aussi. Oui, mais je sais, je me suis mis en colère. Oui, oui, mais il ou elle est comme ça, et on va justifier. Alors, et peut-être que l'autre est comme ça. Mais est-ce que c'est justifiable comme attitude devant Dieu? La réponse est non. En se basant, entre autres, ce n'est pas le seul texte, entre autres, sur ce que dit Jésus. Alors, à titre personnel, vu mon caractère, ma personnalité de base, mon éducation, mon expérience, j'ai souvent échoué dans ce domaine, plus à une période de ma vie que peut-être récemment, quoique récemment, je n'ai pas été top là-dedans non plus. Mais en tout cas, j'ai compris une chose en échouant. C'est que le temps de Dieu et le temps des hommes sont fort différents. En préparant ce message, j'ai revu certains épisodes relationnels difficiles de ma propre vie et je me suis rendu compte que ce fameux quart de seconde dura en fait bien plus longtemps qu'un quart de seconde. Mais pas en termes de valeur spatio-temporelle, pas en termes de temps comme nous pouvons le connaître ici, hein, mais bien en termes de temps spirituel. Ce quart de seconde, quand vous faites appel à Dieu, quand vous sentez que ça va mal tourner, ce quart de seconde-là, c'est comme une sorte d'arrêt. C'est comme si le temps spirituel prenait l'ascendant sur ce temps-là, en fait. Ça, c'est comme une sorte de blocage sur image. Le temps ralentit. C'est comme dans Matrix. Vous avez vu le film Matrix? J'ai jamais rien compris à ce film. Mais enfin, ce que je me rappelle, c'est que ça allait tout aller très vite, sauf pour que le pauvre spectateur que nous étions puisse suivre l'action. Ça s'arrête. Donc, quand on tire une balle, cette balle arrive à une vitesse toute ralentie. On voit le gars esquisser. Tout ça pour nous montrer qu'il esquisse la balle à vitesse réelle. Mais quand vous visualisez l'action, ça prend un temps fou, quoi. Donc, le temps est ralenti. Ce temps spirituel se ralentit. Dès que vous connectez à Dieu dans ce moment-là, alors en temps réel, ça va paraître une fraction de seconde, mais en temps spirituel, parce que vous allez prendre l'impulsion à l'étage, ça va se focaliser, ça va se cristalliser, ça va ralentir le temps. Et donc ce temps-là va aller bien au-delà de ce fameux quart de seconde. Comme si pour un moment l'éternité avait fait irruption dans votre esprit. L'éternité, c'est l'absence de temps, je vous le rappelle aussi. Ce quart de seconde donc peut paraître une éternité quand on rentre dedans, quand on y fait appel. Ce quart de seconde, mes amis, n'est pas de ce monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Si Dieu existe, et s'il est Dieu, et s'il est éternel, il est clair que son temps n'est pas le nôtre, et de ce fait, faire appel à lui, c'est faire rentrer quelque chose dans notre environnement direct qui n'est pas de ce monde. Pas encore, en tout cas. Un quart de seconde pendant lequel vous pouvez vous replacer dans la vie de l'esprit et vous réémerger dans la rivière, si vous voulez. Même si on échoue, moi le premier. Souvent, on explose quand même et on dit des choses horribles. Enfin, soit, vous avez bien compris le principe. Mais ce n'est pas une fatalité. Mais la base de tout, et c'est vrai dans les relations d'église, comme dans les relations avec n'importe qui, c'est qu'il faut, à un moment, décider que c'est le chemin à suivre. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », c'est donc, ça veut dire, vous, je vais le dire autrement, pour que ça soit plus clair, vous ne pouvez détester personne. Vous ne pouvez pas exclure des gens de votre environnement sous prétexte qu'ils sont difficiles. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes là pour montrer que tout le monde a le droit d'être aimé, que Dieu aime tout le monde. Mais pour le prouver, il pourra le prouver, en tout cas pour l'instant, dans ce fonctionnement-ci, il ne va pouvoir le prouver qu'à travers vous. Rappelez-vous, je termine vraiment par ça, cette petite phrase de Jésus qui est terrible. C'est en rapport direct, toujours dans Matthieu, en rapport direct avec le divorce. Mais en fait, Jésus va ouvrir la perspective. On lui parle un truc précis pour le faire, encore une fois, dire des bêtises et que les responsables religieux de son époque puissent l'accuser devant le peuple. Vous voyez, il enseigne n'importe quoi. Mais il dit, oui, il dit, je sais bien que les gens se font du mal, les gens ne savent pas. Bien sûr, bien sûr que je sais ça. Mais quelle est l'origine de ce problème? C'est votre cœur, quoi. C'est la dureté de votre cœur. Donc chaque fois que vous pointez un doigt, je sais bien que c'est une formulation qui est très connue, hein, chaque fois que vous pointez le doigt en disant « c'est lui le problème », il y a trois doigts qui pointent vers vous. Hein. Nous sommes tous partie du problème. Donc nous ne pouvons pas simplement trier les gens sous prétexte que voilà, c'est tellement facile de se choisir les gens que l'on aime. Seulement le prochain dont parle la Bible, « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est Dieu qui le choisit. Et dans mon expérience, alors vous me direz que si ce n'est pas la vôtre, hein, moi, il m'a rarement mis des gens faciles. Hein. Commencer par mon famille. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.